7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, peut-on se passer des réseaux sociaux? C'est la journée mondiale sans Facebook, lancée il y a 8 ans sur Facebook. Avec plus de 2 milliards d'abonnés, cette journée nous questionne sur la place des réseaux sociaux dans nos vies, une façon d'en parler encore un peu plus. Trouver des infos, du boulot, des amis ou l'amour, que vous apporte concrètement Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, WhatsApp, Tinder et compagnie? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie et pouvez-vous vous en passer? Vous pouvez nous appeler surtout dès maintenant sur notre messagerie, le téléphone fixe qui est aussi le WhatsApp, 33 1 84 22 71 71. On en discute avec nos invités, évidemment on va prendre du recul avec vous. Bonjour Fabrice Epelboin.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des médias sociaux et du web social à Sciences Po Paris. Jonathan Leborgne, blogueur spécialiste médias sociaux pour le quotidien Ouest France. Bonjour Jonathan Leborgne.
Bonjour à vous.
Vous êtes à Rennes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Armorique que l'on remercie. Thibaut Dumas avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neuroscientifique, vous étudiez comment notre cerveau vit dans ce monde numérique pour une société privée qui s'appelle Into the Tribe, une agence de digital detox. Voilà. Et puis vous préparez un ouvrage qui sortira dans quelques semaines.
Tout à fait, le 15 mars.
Détox digital pour décrocher de vos écrans. Nous serons aussi en ligne dans quelques minutes avec Gaspard Koenig, philosophe, personnage public qui a testé le sevrage des réseaux sociaux. Et en dernière partie d'émission, reportage, l'association Parole de Femmes mène un programme de lutte contre l'antisémitisme, notamment dans les banlieues en France, un racisme qui s'épanouit à foison sur les réseaux sociaux et pas que. En réponse, l'association a emmené 140 femmes en Pologne dans l'ancien camp de concentration d'Auschwitz. Alice Milo a suivi cette confrontation des faits historiques et des ignorances.
7 milliards de voisins.
On est tout proches.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins et la planète se parle.
Alors je vous lis quelques réactions sur nos réseaux sociaux, sur peut-on se passer des réseaux sociaux. Un internaute enseignant à Yaoundé nous écrit que les réseaux sociaux sont devenus pour moi un lieu de travail. Nous avons des groupes de recherche avec lesquels on travaille uniquement en ligne via les réseaux sociaux, notamment Facebook ou WhatsApp. Je ne peux plus m'en séparer. Florent Anjamena au Tchad, moi je suis totalement accro. Quand je vois que la batterie diminue, ça me rend dingue. Je commence à m'énerver tout seul. Je suis tellement happé par les réseaux sociaux, écrit Florent, que j'en oublie de manger, de dormir, voire de travailler. Je ne sais même plus ce que je viens y chercher. En tout cas, il n'a pas perdu sa lucidité, Florent. Alpha, à Conakry, en Guinée, j'ai fait 40 jours de déconnexion. Des amis m'ont appelé pour prendre de mes nouvelles. D'autres pensaient que j'étais mort. François, à Lomé, au Togo, chez moi, au Togo, même les vieillards illettrés remuent ciel et terre pour se procurer un smartphone. WhatsApp est devenu indispensable. Marthe, également à Lomé, mon astuce à moi pour lever le pied, c'est de ne pas me connecter le soir une fois rentrée à la maison jusqu'au lendemain matin. Et Nadie, elle a Facebook, nous dit Nadie, elle a avec une liste d'amis vide. Je ne l'utilise que pour m'informer. Je suis abonnée aux pages d'actualité. Eh bien, bien sûr, on attend vos appels. 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous surtout dès maintenant, parce qu'à la fin de l'émission, on passe à un autre sujet, quoique pas tout à fait déconnecté. Des réseaux sociaux, on est en direct sur RFI. 7 milliards de voisins.
Pour nous, les voisins, c'est comme une seconde famille.
RFI.
Et la planète se part.
On est en ligne avec Gaspard Koenig. Comment vous réagissez à ces messages que j'ai lus, Gaspard Koenig, vous qui êtes philosophe et qui avez testé le sevrage, la déconnexion? Vous avez vécu une mort sociale?
Ben non, pas du tout, mais j'ai trouvé très... D'abord, bonjour. J'ai trouvé très intéressant la réaction de votre deuxième internaute qui décrit tous les symptômes de l'addiction au point de ne plus pouvoir manger. Vous savez, on a fait une expérience très connue sur des rats de laboratoire à qui on mettait des puces dans le cerveau qui activent les zones du plaisir et qui en mouraient parce qu'ils préféraient appuyer à l'infini sur le bouton qui provoque le plaisir, qui active les circuits de récompense cérébraux, plutôt que de se nourrir. Donc c'est, je pense, tout à fait possible de mourir d'addiction et que les réseaux sociaux en sont une forme particulièrement puissante, dont d'ailleurs, enfin certains réseaux sociaux d'ailleurs, parce que là, vous, dans ce que vous présentiez, vous mettez un peu tout dans le même sac, de WhatsApp à Tinder, en passant par Facebook alors et LinkedIn, alors qu'il y a quand même des différences assez fortes dans la manière dont ces applications ou ces plateformes sont conçues. Ouais.
Mais alors, vous avez été accro à Twitter, hein, au démarrage.
Oui, j'en ai un peu honte. C'est vrai que ça, encore une fois, comme je disais, certains réseaux sont conçus pour l'addiction. Ce n'est pas le cas, par exemple, de LinkedIn, ce n'est pas le cas de WhatsApp, bien sûr, qui est un échange privé. Mais tous les réseaux qui fonctionnent sur le nombre de points, le nombre de likes, sur la récompense, sont faits pour vous tenir constamment en éveil, et pour une raison d'ailleurs très commerciale, qui est qu'il faut produire de la donnée, il faut produire de la data, puisque c'est cette data qui fait le business model, la valeur économique de ces réseaux sociaux.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre déconnexion, Gaspard Koenig? Qu'est-ce que vous avez observé? Quelle analyse vous en faites de votre expérience?
D'abord, une analyse aussi rétrospective, c'est-à-dire que moi, j'en suis parti après, pour des raisons, disons, théoriques, après avoir lu les livres de Jaron Lanier, qui connaît bien le sujet, puisqu'il est à la fois, il a été un des ingénieurs vraiment à la naissance du web. Il travaille chez Microsoft aujourd'hui, mais en même temps, il a un discours très critique et très alternatif. Il a publié un petit livre il y a quelques mois, pourquoi il faut se déconnecter, il faut partir des réseaux sociaux. Mais il m'a convaincu, parce qu'effectivement, j'ai compris à quel point j'étais une sorte de rat de laboratoire ou de hamster dans sa roue qui est là pour produire de la data pour en enrichir d'autres, à quel point on devient bête parce qu'en 280 signes, qu'on soit positif ou négatif, on perd sa capacité critique, on perd aussi sa capacité de prendre du temps, de tourner sa langue dans sa bouche. Et comme je disais, rétrospectivement, d'abord c'est sans privé compliqué, surtout quand on est impliqué dans le débat public. C'est un sacrifice, on perd un certain nombre de choses, d'accord.
Je vous posais la question au démarrage, pour revenir au démarrage, mais un peu plus rapidement si c'est possible, Gaspard Koenig, vous avez ressenti une sorte de mort sociale, comme le disait notre auditeur tout à l'heure, en quelques mots?
Non, alors on ressent un isolement plus fort, mais ça c'est plutôt positif, parce qu'on retrouve une forme de densité personnelle, de solipsisme assez sain. Mais après, je dirais, c'est tout le contraire, puisque comme vous n'êtes plus sur ces, vous ne pouvez plus être tagué sur ces réseaux, mais les gens, au contraire, se remettent à vous parler, à vous appeler ou à vous envoyer des messages. Donc je pense que, et puis après, vous avez d'autres manières d'organiser votre communauté.
Qu'est-ce qu'il faut réapprendre? Qu'est-ce que vous avez réappris? Encore une fois, vraiment en quelques mots, parce que je voudrais laisser la parole à nos invités aussi.
Écoutez, d'abord, on réapprend la solitude, ce qui est très bien. On réapprend à ne pas réagir à tout, à ne pas être irrité en permanence, parce que c'est vrai que quand vous avez les news du monde en permanence sur votre écran, c'est constamment désagréable, et constamment vous avez envie de protester, vous avez envie de réagir, et vous ne prenez même pas le temps de lire l'article, vous postez immédiatement un commentaire, et là on réapprend à encaisser, à ruminer, comme disait Nietzsche, à trier.
Seul, sans partager.
Vaut le coup de s'énerver.
Qu'est-ce que vous vous autorisez aujourd'hui, Gaspard Koenig? Un verre ou deux le week-end et c'est tout, en gros?
Non, mais moi, par exemple, vous savez, on a publié des rapports sur la légalisation du cannabis au sein de Génération Libre, donc je ne suis pas du tout hostile au plaisir ou même aux drogues, mais simplement, je trouve assez sain de ne se... J'ai arrêté le café, par exemple. Je trouve assez sain de pouvoir contrôler.
Pour revenir à la déconnexion.
Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est une discipline assez forte. Par exemple, le matin, là, quand je vous parle, je décroche tout téléphone pour pouvoir écrire tranquillement. Voilà, enfin, chacun sa vie. C'est une vraie discipline et ça vous redonne une forme de concentration quand même et de contrôle de soi. Comme disait Foucault en parlant des stoïciens, de souci de soi, de cours à souille.
Ouais. Est-ce qu'on pourra y revenir vraiment? C'est une vraie question. En tout cas, merci d'avoir été en ligne avec nous, Gaspard Koenig. On va vous donner la parole si vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 pour réagir, les auditeurs. Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont changé dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez prisonnier de ces réseaux sociaux? On en discute aussi, bien sûr, avec nos invités.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
On a un auditeur qui pose une question que je trouve évidente et en même temps tellement intéressante. Pourquoi Sarko, à Conakry, nous dit pourquoi cette surexploitation des réseaux sociaux aujourd'hui constitue un fait de société? Qu'est-ce que vous répondriez, Fabrice Eppelboin?
Les réseaux sociaux sont venus compenser un manque. Et dans chaque société dans laquelle ils ont été introduites, que ce soit en Guinée-Conakry ou à Paris, il y avait des manques. Des manques en termes de tissu social, des manques en termes d'information, en termes de liberté d'expression, qui sont évidemment pas du tout les mêmes d'un pays à l'autre. Et partout, les réseaux sociaux sont venus combler ces manques d'une façon ou d'une autre, souvent de façon assez abrupte et souvent de façon assez violente. Violente au sens où, du jour au lendemain, par exemple, le peuple tunisien a accédé à la liberté d'expression, ce qui était plus que violent et qui s'est mal terminé pour le pouvoir tunisien. Mais on peut observer cette même violence hein, dans tout un tas de sociétés qu'on imaginait beaucoup moins susceptibles d'être disruptées par ces réseaux sociaux. On a évidemment les gilets jaunes en France en ce moment même, mais vous pouvez aller dans n'importe quel pays, vous observerez ce type de phénomène qui est lié à un manque que les réseaux sociaux viennent combler à travers des nouvelles technologies, une nouvelle façon de faire qui souvent résonne avec les anciennes façons de faire. Je pense par exemple au bouche à oreille, qui est quelque chose d'assez courant dans le monde arabe, que Facebook est venu renforcer, et d'où cette résonance particulière entre le monde arabe et Facebook, mais aussi à des dispositifs très particuliers dans les sociétés typiquement d'Afrique subsaharienne ou asiatique, où les réseaux sociaux, là encore, sont venus se calquer à des usages sociaux existants. Et ça transforme radicalement toutes nos sociétés, absolument toutes nos sociétés.
Mais différemment. Thibaut Dumas, où est-ce qu'on en est du temps passé sur les réseaux sociaux? À quel niveau d'importance et d'intrusion on est arrivé?
Alors ce qui est très intéressant dans la mesure du temps que l'on passe sur les réseaux sociaux, c'est que quasiment systématiquement, les gens sous-estiment le temps qui passe sur les dispositifs connectés, en particulier les réseaux sociaux. Comme on l'a vu, comme l'a dit par exemple dans le témoignage que vous aviez énoncé tout à l'heure, certaines personnes démarrent l'utilisation mais apprennent au bout d'un moment ne savent même plus pourquoi elles étaient en train de chercher, qu'est-ce qu'elles étaient en train de chercher comme information. On est dans une logique où évidemment il y a un aspect où tout dépend de notre usage personnel, donc la dose avec laquelle on va utiliser, on va consommer l'outil, mais évidemment il y a aussi une responsabilité du développeur, du designer, de l'éditeur pour essayer de capter un maximum notre temps et développer des mécanismes pour nous faire passer un maximum de temps sur l'application. Aujourd'hui on mesure que on est à peu près à 5 heures ou 6 heures, voire dans certaines mesures jusqu'à 8 heures de temps passé sur les réseaux sociaux, et c'est très préoccupant parce que évidemment, ça répondait à la promesse de vouloir connecter les gens entre eux, de vouloir augmenter les échanges, etc. Mais depuis la fin des années 90, ou les premières arrivées d'Internet, on a commencé à mettre en place des mesures, et ça s'est refait avec les réseaux sociaux, sur est-ce que ça répond à la question de la solitude, est-ce que ça augmente les échanges d'informations, etc. Et ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, le temps passé sur les réseaux sociaux augmente le sentiment de solitude, augmente l'anxiété, diminue la confiance en soi, et même on l'a vu plus récemment, si on passe plus d'une heure par jour sur les réseaux sociaux, on augmente de 1,7 fois le risque de développer un symptôme dépressif. Donc on est dans, et une heure par jour c'est pas énorme hein. Donc on est quand même dans des cas où finalement l'impact que ça a sur notre santé, sur notre bien-être, il est très conséquent, très significatif.
Sous-entendu plus important que le bénéfice? C'est ce que vous voulez dire?
Aujourd'hui, on est dans cette situation-là.
Tout est relatif. On va ressortir une phrase très connue qui est « Ignorance is bliss ». L'ignorance, c'est le bonheur, c'est évident. Si du jour au lendemain, vous êtes infiniment plus conscient de l'état du monde, de votre incapacité à la changer, et à quel point vous êtes nombreux dans cette situation, c'est sûr que le symptôme dépressif guette. Hein. Ça, c'est complètement lié, c'est évident.
Jonathan Le Borgne, vous raisonnez en tant qu'usager intensif et en même temps analyste, en étant blogueur, spécialiste des médias sociaux pour West France.
Alors oui, surtout les réseaux sociaux sont un peu mon métier, donc j'aurais du mal à m'en passer. Effectivement, Gaspard en parlait tout à l'heure, la donnée sociale finalement c'est ce qui fait les réseaux sociaux aujourd'hui, et les réseaux sociaux ne peuvent pas se passer de nous. Les marques et les médias l'ont bien compris. Si bien que la donnée sociale, qui est utilisée à travers le comportement des utilisateurs sur les applications, elles vont servir à répondre à des objectifs marketing qui sont diriger les gens vers le site web, vers l'application, vers des lettres d'information, vers même demain, enfin même déjà aujourd'hui, vers la souscription d'abonnement numérique. Donc les applications, enfin on est le produit finalement de ces applications, et donc on est tous un peu complices finalement de ce que ces applications attendent de nous, c'est-à-dire qu'on a tous à un moment accepté les yeux fermés les conditions générales d'utilisation de Facebook, on sait tous que Facebook nous traque tout le temps, en permanence, sur notre téléphone. Pour répondre à la question, oui.
Et est-ce que, alors justement, vous avez cité la façon dont il y a tout un marketing qui nous ligote. Est-ce qu'on pourrait revenir avec des exemples précis, Thibaut Dumas, Fabrice Eppelboin, sur comment ça fonctionne, les circuits de la récompense, là, on faisait allusion à des expériences de laboratoire, comment ça fonctionne très concrètement, les likes, etc., sur les humains grâce au marketing des réseaux sociaux. Il n'y a pas que les likes, il y a aussi les flammes sur Snapchat. Ça marche comment ?
Alors, la théorie de base, ça serait que ce système de likes, de flammes, et donc vraiment le système des flammes a encore été plus fort sur ce phénomène d'addiction.
C'est très visuel, c'est de la couleur. Hein.
Tout à fait. Alors, il y a les couleurs, mais il y a surtout la temporalité, le fait d'être récompensé lorsqu'on fait une action. Ça, c'est du conditionnement de base pavlovien où on va être récompensé suite à une action qu'on va faire et donc ça va renforcer le comportement. Aujourd'hui, en revanche, on a des hypothèses effectivement sur la stimulation du circuit de la récompense, donc qui est un réseau de structures dans le cerveau qui est le même que celui qui est stimulé par certaines drogues, comme aussi bien la caféine que l'héroïne, que la cocaïne, etc. Et donc qui, avec certains neurotransmetteurs comme la dopamine, donc on pourrait théoriquement émettre l'hypothèse que chaque like serait une sorte de petit shoot de dopamine et donc notre cerveau aimerait ça et aurait envie d'en avoir plus.
Mais en gros, plus on est
actif, plus on like, là-dessus
plus on
aujourd'hui.
Fait quelque chose, plus on est contacté, plus on existe en fait, hein, voilà. Sur la toile.
Ce qui est mesuré en tout cas, c'est qu'on ne peut pas exactement dire faire un parallèle très strict entre les likes, l'utilisation de Facebook, des réseaux sociaux et une pharmacodépendance au sens strict du terme. Mais on a des corrélations avec des phénomènes de dépendance comportementale. Ça va être, je ne me rends pas compte du temps que je passe, je sais que c'est mauvais pour moi, mais je continue à le faire. Ça a un impact sur ma famille, mais c'est pas grave. Toutes ces choses-là, j'ai besoin d'augmenter la dose pour avoir le même effet. On est sur ces choses-là quand même malgré tout, et on l'observe avec les réseaux sociaux.
Est-ce que les innovations permanentes font aussi évoluer les usages ? Fabrice Eppelboin.
Il y a de toute façon une décorrélation entre l'intention initiale des gens qui mettent sur le marché ce type d'application et puis les vrais usages. Quand Facebook a lancé son service, ils étaient à milieu de s'imaginer qu'à l'autre bout du monde, en Tunisie, une bande d'activistes ferait la révolution en s'appuyant sur cet outil. Depuis, ils sont un peu plus conscients de ce qu'on peut faire avec leur outil, mais d'une façon générale, il y a très souvent, et particulièrement en cas de grand succès, un décalage complet entre les usages réels et ce que les inventeurs de ces technologies avaient en tête. On est toujours surpris.
Une question de Casimir qui a posté d'Haïti. Il demande, quels sont d'après vous les apports des réseaux sociaux à la culture d'un peuple ?
Alors ça dépend de la culture, ça dépend du peuple. Je vais prendre des cultures et des peuples que je connais bien. Par exemple, en Tunisie, les réseaux sociaux ont apporté une myriade de choses. Ils ont reconstruit un tissu culturel. Donc tout d'un coup, grâce à Facebook, la vie culturelle a complètement été revitalisée. Il faut dire qu'elle était très lourdement étouffée par le pouvoir tunisien. Ils ont créé une espèce de révolution sexuelle au sein de la jeunesse tunisienne, parce que tout d'un coup, les contacts entre garçons et filles étaient beaucoup plus facilités.
Et, est-ce que la sexualité, ça fait partie de la culture d'un peuple ?
Ah oui, définitivement. Effectivement, oui, demander en Asie. Évidemment, c'est même très fondamental. Et puis évidemment, ils ont révolutionné la culture politique et démocratique de la Tunisie, mais ça, ils le font un peu partout. Donc c'est vraiment le dénominateur commun, le surplus de démocratie, avec une définition extrêmement floue de ce mot, que les réseaux sociaux viennent apporter à toutes les populations, absolument toutes, y compris les grandes nations occidentales qui s'enorgueillaient d'être démocratiques.
Alors, on parlait du marketing de la récompense et de comment plus on est actif, plus on existe finalement, et plus ça nous fait du bien. En même temps, les chiffres annoncés sur les usagers, sur les usages, Fabrice Eppelboin, vous le dites souvent, sont à moitié fiables.
Plus qu'à moitié. On a une quantité de faux sur les réseaux sociaux et sur Internet en général, qui fait qu'aujourd'hui on estime que l'audience d'un média typiquement est composée pour moitié de faux. Et qu'il faut, pour être réaliste, diviser par deux les chiffres d'audience pour avoir une idée de la réelle fréquentation des sites médias.
Alors, une vidéo sur YouTube qui fait 1 million de vues, il faut se dire quoi et pourquoi ?
Il n'y a pas de règle générale, mais il est très facile de booster, enfin moins facile qu'hier, mais quand même ça reste relativement facile de booster le nombre de vues d'une vidéo. Et puis on sait depuis typiquement Edward Snowden que typiquement...
C'est-à-dire en achetant des services concrètement ?
Ça dépend. par exemple, si je suis un service secret comme les services secrets anglais, je vais pouvoir complètement trafiquer l'audience de votre média de façon à vous faire croire à une appétence d'une audience imaginaire, à vous, journaliste, ce qui va complètement orienter votre ligne éditoriale. Ça peut être une façon d'utiliser ce fake. Si je suis un lobby, je peux utiliser le même type de technologie pour faire de même et vous pousser dans le traitement de certains sujets ou au contraire, étouffer certains autres.
Mais quelqu'un qui veut faire connaître son blog cuisine.
Alors lui, il va pouvoir s'adresser à des gens qui... Alors pour un blog cuisine, il n'y a pas à pouvoir faire grand-chose, si ce n'est du SEO, mais...
Du SEO, c'est-à-dire optimiser
son référencement dans Google. Mais si c'est un groupe média, typiquement, il va pouvoir faire appel à des agences qui, elles, vont développer des stratégies qui sont un mix entre de l'optimisation de Google, mais aussi ce qu'on appelle du black hat SEO, c'est-à-dire, par exemple, la génération d'une audience totalement artificielle qui va malgré tout s'inscrire dans vos compteurs, vous permettre de tirer des revenus publicitaires de cette audience imaginaire et de faire grimper votre business, tout ça sur du faux.
Est-ce que ça veut dire, Jonathan Le Borgne, qu'il n'y a pas que le marketing de la récompense, il y a aussi le fait de... On est d'une certaine manière forcément manipulé hein, par ces chiffres quand on circule sur la toile et qu'on nous mène nous-mêmes de réseaux sociaux en réseaux sociaux et de sujet en sujet en fonction des succès.
Effectivement, il y a la partie visible qu'on connaît tous, hein, c'est l'animation des pages Facebook. On a la partie aussi invisible, toute la partie marketing. Sur Facebook, on a la possibilité notamment de cibler sur des intérêts démo-géographiques, c'est des données que les internautes donnent directement à Facebook. Et on a aussi les données plus comportementales, c'est-à-dire que quand vous venez aujourd'hui sur un site pour acheter une montre, par exemple, il y a de grandes chances que 24 heures après, vous aurez une publication sur votre Facebook pour vous inciter à acheter cette montre.
Alors, ceci dit, Gaspard Koenig, tout à l'heure, nous disait que, bon, il s'était déconnecté et que finalement, il ne fallait pas mettre dans le même panier tous les réseaux sociaux. Un site comme LinkedIn, qui est un site typiquement, uniquement à usage professionnel, est beaucoup moins sous le feu des critiques, Fabrice Eppelboin, que, évidemment, Facebook ou Twitter. Néanmoins, on s'en rend bien compte aussi que dès qu'on est actif, dès qu'on poste sur un réseau social, comme LinkedIn, on est sollicité, on est récompensé, on reçoit des propositions, y compris d'ailleurs du réseau social lui-même.
Honnêtement, LinkedIn est devenu un outil indispensable pour le recrutement, est en passe de devenir un outil essentiel pour le commercial et est dans les mains de Microsoft, qui est une société qui a un lourd historique. Aujourd'hui, ça s'appelle une situation de monopole. Le fait que la situation de monopole par rapport au recrutement et au commercial soit dans les mains de société américaine, si ça n'est pas critiqué, c'est très concrètement qu'on est complètement à côté de la plaque. C'est tout aussi inquiétant que la situation de Facebook sur la vie sociale réelle. Ça, si ce n'est que là, c'est la vie sociale des entreprises. Donc la situation de LinkedIn est tout aussi préoccupante. Les algorithmes de LinkedIn sont beaucoup moins, on va dire, vicieux que ceux de Facebook, mais la situation est en tout point préoccupante.
C'est-à-dire, pourquoi ?
Moins sophistiqué essentiellement, beaucoup moins sophistiqué. Et puis LinkedIn
sur
ne
les
donne
personnalités
pas...
des profils des gens.
C'est-à-dire que LinkedIn ne donne pas d'incentive au clash, alors que Facebook ou Twitter donnent une énorme incentive au clash. D'où ce déferlement de haine qui est généralisé dans la société française en ce moment, mais on est loin d'être les seuls. C'est extrêmement lié aux incentives données par ces fameux moteurs d'intelligence artificielle qui gèrent nos flux d'informations. Et évidemment, LinkedIn n'a absolument aucun intérêt à générer du clash dans un milieu professionnel. Donc ils n'ont absolument pas misé là-dessus. Ce qui donne au final un LinkedIn un peu ennuyeux, il faut être honnête.
Et une ambiance assez pacifiée finalement, assez calme.
Alors l'ambiance pacifiée elle est essentiellement liée au fait que tout ce petit monde se fréquente dans des objectifs commerciaux et qu'effectivement commercialement parlant, on n'a jamais vendu quoi que ce soit en hurlant sur quelqu'un et au passage on n'a jamais convaincu qui que ce soit sur Facebook ou Twitter en lui crachant dessus, ce que les plus aguerris ont parfaitement compris. Je vais revenir encore une fois en France, hein, vous m'excuserez de ce tropisme, mais en France, ceux qui n'insultent pas, qui n'agressent pas, sont essentiellement issus de la sphère d'extrême droite et ça pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils sont sur ces réseaux sociaux, ils sont sur Internet depuis plus d'une génération. Là où, en face, on a un camp extrêmement agressif, qui est le camp actuellement au pouvoir de La République En Marche, qui sont sur les réseaux sociaux depuis, pour l'essentiel, 12 à 18 mois, à tout casser. Donc il y a une différentielle d'expérience qui montre que ceux qu'on désigne trop facilement en France comme étant les fachos, ont parfaitement compris qu'on n'avait jamais convaincu qui que ce soit en lui crachant dessus.
Ouais, alors on va en parler de la manipulation et de la colère sur les réseaux sociaux, l'irritation perpétuelle, comme le disait Gaspard Koenig, dans quelques instants. Vous restez avec nous.
7 milliards le voisin.
C'est sur RFI.
Est-ce qu'il faut mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux, puisque ça a été largement discuté en France, mais pas que d'ailleurs, Fabrice Eppelboin?
Il faut commencer par le commencement, on va mettre fin à l'ignorance. L'anonymat, vous ne pourrez absolument rien y faire, c'est une fondamentale technique d'Internet. Donc les gens qui ont les capacités techniques pourront toujours être anonymes. C'est lié à l'ADN technique de ce qu'est Internet. Ce à quoi on doit répondre aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut mettre fin au pseudonymat? À mon sens, c'est un extrême danger. On est en train de préparer aujourd'hui en France ce qui sera dans les mains d'un pouvoir alternatif demain, parce qu'on voit tous que le pouvoir actuel va devoir tôt ou tard céder la place à une alternative. Cette alternative risque d'être beaucoup moins démocrate que le pouvoir actuel, et on va à cette occasion redécouvrir les intérêts du pseudonymat. On va découvrir par exemple que Le Canard Enchaîné, c'est essentiellement écrit sous pseudonymat. On va découvrir que être un opposant politique, c'est quand même extrêmement sécure de le faire sous pseudonymat. Et là, pour le coup, je pense que dans l'Afrique subsaharienne, on entend tout à fait ce propos. En France, on ignore parfaitement ce propos, tout simplement parce qu'on a l'impression que la démocratie est un long fleuve tranquille. Or, c'est loin d'être le cas, et on a tous les signes avant-coureurs que ça n'est pas du tout ce qui nous attend demain. Donc, mettre fin au pseudonymat, c'est se couper très clairement quasiment toutes les possibilités de résistance demain. Et on risque d'en avoir bien besoin.
Ouais, Jonathan Le Borgne, sur le pseudonymat, est-ce que d'ailleurs vous pensez qu'on arrivera à des textes, et est-ce qu'il faut le souhaiter, à des textes qui vont contraindre énormément les opérateurs numériques, plus de surveillance, plus de retrait également?
La question, il faudra presque la poser à Facebook aujourd'hui. Nous, côté médias, je parle aussi au nom de West France, mais on a une agence aujourd'hui qui modère nos commentaires. Elle modère de deux façons. Déjà, elle attribue un score aux internautes. Un internaute qui va commenter sur une page type du Figaro, type West France ou type Le Monde, il va avoir un score global. C'est-à-dire que l'agence saura déterminer si l'internaute est entre guillemets un troll ou un interacteur ou un observateur. Et il y a un deuxième critère, c'est la suppression directement des commentaires par une intelligence artificielle. Donc dès qu'il y a une insulte ou dès qu'il y a des commentaires à caractère haineux, ils sont automatiquement masqués ou supprimés. Mais ça vaut, alors malheureusement, c'est qu'il y a une incidence aussi là-dessus, dès qu'on supprime des commentaires, les gens reviennent encore plus fort. Ils reviennent commenter encore davantage avec des commentaires encore plus insultants et plus haineux envers le média.
Ouais, même si Facebook a revendiqué faire beaucoup d'efforts. Hein,
Oui, et qui se sont fait avoir une fois de plus à mentir. Je pense qu'on peut partir à ce stade. Facebook, on a 15 ans d'historique avec Facebook. On peut partir du principe qu'ils mentent de façon systématique. Donc le plus simple, c'est d'éviter d'écouter ce qu'ils racontent. Les conditions de modération de Facebook se font, c'est encore sorti hier dans The Verge, je crois, cataclysmique. L'état psychologique des modérateurs de Facebook les rend tellement fous.
Oui, parce que ça ne se fait pas que par l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle, c'est un mythe qu'on agite aux journalistes qui, ne sachant pas ce que c'est, le croient bien volontiers. Ça n'est pas du tout en mesure de faire ça aujourd'hui, absolument pas en mesure. L'intelligence artificielle ne sait pas faire la différence entre ce soir on mange les enfants et ce soir on mange, virgule, les enfants. L'intelligence artificielle est à mille lieues aujourd'hui de pouvoir avoir cette tâche de modération. Et ce qui va se passer très concrètement, après la loi qu'on est en train de plus ou moins écrire en France, comme en Angleterre, comme dans tout un tas de pays, c'est la réalité concrète qui ne seront dans ce cas de figure même pas les décrets d'application de la loi, mais très concrètement la façon dont Facebook va gérer cette modération. Et ça, on le sait. On sait très bien comment ça se passe. Il va y avoir des problématiques et des effets de bord liés typiquement au cultural gap qui existe entre les centres de modération, qui sont des pays à bas coût, et la France. Je vous laisse imaginer le cultural gap et le hiatisme qui peut exister, par exemple, entre antisémitisme et antisionisme en France ou à Rabat, au Maroc, où ont lieu la modération de Facebook pour les comptes français. On va se heurter à une quantité faramineuse d'effets de bord qui auront tout fait de complètement effacer les potentiels bénéfices de cette opération.
Thibaut Dumas, je vous laisse le mot de la fin sur cette discussion. Vous êtes neuroscientifique et vous vous interrogez effectivement sur le fait de parvenir à limiter les usages des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui prédisent un jour un rejet du gavage?
Alors, je suis pas dans une logique où il faut absolument arrêter les réseaux sociaux et dire que c'est quelque chose de diabolique et qu'il faudrait annuler tout ça et se vivre dans une grotte jusqu'à la fin de ses jours. L'idée, c'est de plutôt se trouver, pour que chacun puisse trouver la bonne dose qui lui est bénéfique et le bon usage qui lui permet d'en tirer des bénéfices sans en avoir les effets les plus négatifs. Ce que j'aimerais vraiment, en fait, que les gens gardent en tête, c'est qu'au cœur de tout ça, c'est l'économie de l'attention. C'est-à-dire que ce qu'essayent de capter tous les éditeurs, les producteurs de ces réseaux sociaux, c'est notre attention. Or, au niveau cérébral, notre attention, c'est sans doute une des fonctions les plus importantes, et c'est celle qui nous permet de pouvoir prendre conscience de notre environnement, de pouvoir mémoriser, de pouvoir donner une existence cognitive et sensorielle à tout ce qui nous entoure et aux autres. Donc on cherche tous l'attention des autres, on cherche l'attention de nos proches, et nos proches cherchent aussi notre attention. On n'existe que par l'attention qu'on porte aux autres. Et donc forcément...
Mais ça, les gens se rendent compte, la preuve, hein. Mais oui. On l'a entendu dans les témoignages qui ont été postés sur les réseaux sociaux.
Absolument. Mais c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'à chaque fois, tous ces réseaux essayent de capter, de miner notre attention. Et notre attention est limitée, elle est limitée cérébralement, elle est limitée dans le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on en prenne le plus soin possible. Et c'est ça qui est vraiment important.
Fabrice Épellebois.
Je vais compléter cet angle par une autre approche, alors qui est propre à mon parcours personnel dans la technologie. Tout ça relève de l'économie, de la surveillance. Et renseignez-vous sur l'affaire Cambridge Analytica. Fondamentalement, ce que ces réseaux captent, c'est notre libre arbitre. Au-delà de notre attention, c'est notre libre arbitre. Et ça, c'est une valeur fondamentale de ce qui fait des sociétés libres ou pas. Ce que Cambridge Analytica a volé au peuple britannique et au peuple américain, c'est son libre arbitre.
Vous vous souvenez de cet ancien cadre de chez Facebook qui avait dit que Facebook avait détruit le tissu social. Est-ce que réellement aujourd'hui, vous le disiez au début de l'émission, finalement les réseaux sociaux sont arrivés sur des cultures qui n'attendaient que ça, des populations, des organisations de société qui attendaient que ça, ça s'est installé sur une forme de vide déjà.
Complètement, on a vraiment l'illustration en France en ce moment même. On a un tissu social périurbain qui a été détruit, d'une part par le recul des services publics, la poste qu'on a fermée, mais aussi en grande partie par l'implantation de façon prolifique en France de supermarchés dans les centres, dans les zones industrielles qui ont vidé les centres-villes. Et on s'est endormis tous depuis plus d'une génération, parce que ça date du XXe siècle, sur cet état de fait qui a littéralement détruit toute forme de lien social dans ces zones périurbaines. Facebook est arrivé avec un changement d'algorithme il y a de ça un an, qui donnait tout d'un coup la priorité à la proximité géographique plutôt qu'aux pages. Et ce lien a rejailli. Et ce lien s'est recréé, il s'est traduit dans le réel par cette occupation des ronds-points, mais soyez sûr que le lien social qui s'est recréé à cette occasion n'est pas prêt de disparaître.
Vous êtes tous les trois passionnés par le sujet et en même temps hyper critiques, et en même temps vous reconnaissez largement ce que les réseaux sociaux ont apporté. Quelle est votre relation personnelle, Thomas Dumas, Thibaut Dumas, avec les réseaux sociaux, votre usage là, vous pouvez nous dire?
Très concrètement, j'ai quitté la plupart des plateformes, Facebook et compagnie, mais je continue à utiliser effectivement LinkedIn pour des raisons professionnelles.
D'accord, et sinon vous communiquez comment donc? Avec des mails, des SMS et par WhatsApp, ou même par WhatsApp?
Tout à fait, par WhatsApp, par des emails. Mais alors les emails, j'essaye aussi de les limiter parce que l'infobésité est quelque chose qui nous touche beaucoup. Mmh. Aujourd'hui, un Français passe 99 jours par an sur ses emails, donc c'est quand même assez conséquent. Ouais. Et donc, j'essaye de consulter, ça je le conseille beaucoup aux gens qui viennent nous voir en formation ou en séminaire, c'est de limiter à 3 séances par jour de consultation d'emails, ce qui suffit largement.
Et vous, Fabrice Épellebois?
Je suis beaucoup moins raisonnable. J'essaie de ne pas.
Vous travaillez là-dessus aussi, donc.
Moi, j'essaie de ne pas mettre d'éléments relevant de ma vie privée sur les réseaux sociaux. Et jusqu'ici, je m'en sors plutôt pas mal. Et j'essaie de limiter mes interventions le plus possible au champ du numérique. C'est-à-dire que j'évite de me scandaliser sur des sujets sur lesquels je n'ai pas de pertinence autre que celle d'un simple citoyen.
Merci. Ce qui m'arrive aussi. Merci à vous, Fabrice Épellebois, Jonathan Le Borgne et Thibaut Dumas. Dans quelques instants, reportage à propos de la lutte contre l'antisémitisme.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Le truc, c'est qu'elle est plus jolie, et ça fout la haine. Puis elle poste une photo, et l'autre, elle met un j'aime. Et puis elle se sent mal, pourquoi faire semblant de bien l'aimer? Car en attendant, c'est bête, mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant? de bien aller. Dominique, elle ment, car c'est tentant de leur montrer, même si c'est pas vrai. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. Et ça, ça fout la haine. Quand elle se regarde, elle se dit, de toute façon, moi, je suis mieux qu'elle. Après, elle se sent mal. Pourquoi faire semblant de bien l'aimer? Car en attendant, c'est bête, mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller? Dominique, elle ment. Sa vie n'est pas parfaite comme elle aime le montrer.
C'est Angèle, victime des réseaux sur RFI. Les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure avec nos invités, favorisent les échanges, mais aussi, c'est vrai, les haines, notamment l'antisémitisme. Ça se prolonge bien sûr hors des écrans. Les actes antisémites ont augmenté de 74% en France en 2018. Et depuis début janvier, des cimetières juifs ont été profanés. Un des arbres plantés en mémoire d'Ilan Halimi a été scié. Les effigies de Simone Veil recouvertes de croix gammées. Et les murs de Paris de graffitis antisémites. Une actualité qui rend urgente, mais on le dit à chaque fois, le travail des associations qui luttent contre l'antisémitisme, notamment dans les quartiers. Il y a quelques jours, l'association Langage de Femmes a emmené 140 femmes venues de différents horizons dans l'ancien camp de concentration d'Auschwitz en Pologne pour commémorer la mémoire des victimes de la Shoah. Notre reporter Alice Milo a suivi cette confrontation des faits historiques et parfois des ignorances. Dans le groupe, il y avait Ginette Kolinka, 94 ans, rescapée du génocide juif. Elle témoigne à quelques mètres de l'entrée du camp, sur les rails. Elle se souvient de son arrivée en 1944.
Il n'y a pas de wagon. Regarde, il est juste derrière le wagon.
Ah d'accord.
Voilà, là c'est bon.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Eh bien, qu'on a voyagé dans un wagon comme ça, que un peu ce genre-là, je ne dis pas que c'est celui-ci, hein, mais qu'il n'avait pas de fenêtre. On était beaucoup, on a eu beaucoup de mal à s'asseoir.
Vous aviez quel âge?
J'avais 19 ans. Alors ici, normalement, je devrais m'écrouler. Parce que c'est le dernier endroit où j'ai vu mon père, mon frère et mon neveu. Après, c'est terminé, je ne les ai plus jamais revus. Et malheureusement, je suis toute seule à être rentrée. Alors, quand on est arrivé ici, c'était à l'aube, il faisait encore nuit. Quand on est descendu du train, de ces wagons comme ça, il y avait des officiers qui hurlaient quelque chose. Comme je ne comprends pas l'allemand, quelqu'un m'a donné la traduction. Les personnes qui étaient malades, les personnes qui étaient fatiguées, il y avait des camions qui étaient là pour les emmener dans le camp. Donc, vous pensez bien que tout de suite, quand j'ai entendu ça, « Papa Gilbert, montez sur le camion !» Ils m'ont écouté. Sans arrêt, les nazis, « Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous allez tous vous retrouver dans le camp. » Moi, je pensais que ces messieurs étaient très gentils, très humains. Ils ne voulaient pas qu'on se fatigue. C'est pour ça qu'ils montaient sur les camions, les personnes qui étaient fatiguées, les personnes âgées, les personnes qui portaient des bébés. Mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Ces salauds de nazis nous ont toujours, toujours menti.
Bouleversé pendant ce témoignage.
On se rend mieux compte quand on entend une personne qui l'a vécu, quoi. Pour moi, c'est très important de voir par moi-même. Ça fait depuis que je suis petite fille que je veux venir ici.
Ici, vous êtes dans une zone marécageuse. Ginette, vous le disiez tout à l'heure, de la boue partout. Évidemment, des clôtures électrifiées. Et une baraque qui vous était assignée, et nous allons circuler dans cet univers concentrationnaire, ce que ne pouvait évidemment pas faire, les déporter. Si un juif est entré ici, c'est déjà qu'il a été sélectionné pour le travail. Donc il fait déjà partie d'une infime minorité.
Je suis Samia Essaba, présidente de Langage de Femmes. Notre souhait, c'est de, bien sûr, lutter contre le racisme et l'antisémitisme, mais surtout de transmettre les connaissances, éduquer. Et donc aujourd'hui, nous sommes 140 femmes à visiter ensemble ce camp. Et je pense que c'est important que toutes ces femmes-là se retrouvent en une seule communauté. Entre femmes, voilà, il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de complexe de ne pas savoir. On est très solidaires les unes les autres et on appréhende ensemble, main dans la main, ce lieu.
Juste votre prénom, vous appelez
Aïcha.
Et vous êtes de quelle ville?
De Trappes. On est venu pour rendre hommage aux gens de ce qui est passé ici.
Mais cette histoire de la Shoah, vous l'avez apprise quand et où, la première fois?
La première fois, je l'ai pris dimanche. Parce que moi, je ne savais pas.
Dimanche dernier?
Dimanche dernier. On savait qu'il y a eu pas mal de juifs qui étaient morts, mais on ne savait pas qu'il y ait tout ce que je viens de prendre aujourd'hui.
Vous saviez que des juifs avaient été persécutés?
Oui.
Mais vous n'aviez pas compris que c'était un génocide?
Oui, parce que je n'ai pas pris ça à l'école. J'ai né à Casa, j'ai grandi à Casa.
Au Maroc, Casablanca.
Au Maroc, à Casablanca. Je suis allée à l'école jusqu'à CM2. J'ai arrêté et je suis rentrée ici en France en 78. Par exemple, quand j'étais auxiliaire de vie près des personnes âgées ou des enfants, eh ben, je commence de 8h du matin, je rentre qu'à 8h du soir. Donc on n'a pas le temps, on pense qu'à aller se coucher pour se reposer, pour être en forme le lendemain. Mais là maintenant, toute l'histoire est bien enregistrée en cerveau et puis en mémoire. Donc on sait comment ça s'est passé, tout ça, c'est choquant.
C'est la combientième fois, Samia Essaba, que vous venez ici?
Écoutez, ma première fois, c'était en 2005. Et depuis, je reviens quasiment tous les ans ou tous les deux ans. C'est une histoire qui me touche profondément. Moi-même, j'ai grandi dans une cité où on était tous mélangés. J'ai grandi avec des familles juives, des familles maghrébines, des familles espagnoles, portugaises, etc. Le déclic, c'est le 11 septembre 2001, tout simplement. Lorsqu'on a débriefé le lendemain de ce drame avec les élèves à la demande de notre proviseur, écoutez, moi ça me fait pas grand chose parce que je sais que dans les deux tours il y avait des juifs, etc. Bon ben,
ce sont des mots qui ont été prononcés par vos élèves?
Par deux, trois élèves, hein, et c'est déjà trop. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que les nouvelles générations tenaient des propos et des préjugés racistes et antisémites à tout va. Là, j'ai dit non, stop, il faut faire quelque chose. Donc j'ai commencé en 2004 à organiser un voyage à Auschwitz et puis ensuite j'ai enchaîné. Voilà. Il y a une certaine compétition. Je l'ai souvent entendu, mes élèves qui disaient « Oui, mais l'esclavage, c'est plus important
que la Shoah. »
Mais ça, c'est parce qu'il fallait travailler dessus pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de concurrence mémorielle et quelle est la différence entre les différentes mémoires. Nous nous sommes rendus au Sénégal, à l'île de Gorée. Nous nous sommes rendus en Guadeloupe pour faire une cérémonie de la mémoire de l'esclavage il n'y a pas très longtemps. C'est ce que je veux dire. Et ça, c'est très important, c'est que lorsque vous mettez les élèves dans un projet de mémoire, quel qu'il soit, ils sont très impliqués, ils vont jusqu'au bout. Et j'ai envie de vous dire qu'ils deviennent, pour moi, ils deviennent des ambassadeurs de la mémoire.
Dans la salle qui va suivre, exactement comme pour les cendres tout à l'heure, donc vous ne prenez pas de photos, s'il vous plaît, et nous parlerons, si vous voulez bien, à la sortie de cette salle.
Oulala, on est rentré dans une pièce en fait où sont exposés les cheveux de toutes les personnes qui ont été déportées en fait jusqu'à maintenant au camp. Des tonnes de cheveux. On voit même des nattes coupées qui étaient déjà tressées. Et c'est J'ai eu du mal à rentrer. Et en fait, c'est réel, en fait. C'est pas de la fiction, c'est vraiment réel.
Vous allez rentrer différente ce soir à Paris ?
Clairement, je pense même pas que je vais dormir tout de suite. Le temps de digérer ce que j'ai vu et d'en parler aussi à mes amis, ma famille, mes frères, à tous ceux de mon entourage en fait, que j'ai fait ce voyage, que voilà ce que j'ai vu, leur montrer les photos, leur dire, enfin transmettre en fait le témoignage en fait.
Vous êtes lycéenne ?
Oui, je suis lycéenne. Je suis en terminale gestion administration. Franchement, c'est un honneur pour moi d'être ici parce que c'est la première fois que, en gros, je voyage en Europe. Première fois de ma vie que je vais en Pologne. C'est une chose qui sera mémorable toute ma vie parce que je me dis que ces personnes-là, elles ont vécu des choses très, très dures à vivre et tout. Et je me dis que moi, c'est complètement... Ça n'a rien à voir du tout. Moi, je vis une vie paisible, saine, tranquille, sans violence, etc. Mais voilà quoi. Sûrement, ça m'arrive des fois d'être discriminée à cause de ma religion, mais je suis musulmane.
Mais est-ce que vous, par exemple, vous avez déjà été témoin d'actes antisémites ?
Je n'ai jamais été témoin de ça, et même non. Moi, sans doute, je dirais à la personne, arrête-toi, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de lui dire sale juif, tu crois ? Sale juif, et alors c'est quoi le problème ? C'est un juif, il est où le problème ? Et ça reste comme tout le monde, il est comme toi, il a des yeux, il a un nez, il a une bouche, donc je vois pas pourquoi je lui dis sale juif.
Moi. Candy, tu en as ?
Là, je vais rentrer chez moi, je vais le raconter à mes garçons. Je ne suis pas juif, mais je vais le transmettre, je vais le dire. L'éducation, elle vient par les femmes, par nous. Par exemple, comme moi, je suis mère, enfin, ça vient de moi. Donc l'éducation, ça commence de la maison. Mais oui, je m'inquiète pour le futur, c'est tout. Parce qu'on craint, c'est... ça se produit. Ça sera pire avec la technologie.
Il faut dire que les réseaux sociaux, Internet, etc., fait beaucoup de ravages. Et il y a des jeunes qui ne savent pas confronter les informations. Ils prennent tout pour argent comptant et ils vont croire au premier degré la moindre rumeur ou les théories complotistes qu'ils lisent à tout bout de champ. Moi, je rencontre des mères qui me disent « Mais écoute, nos enfants, ils étudient ça, mais moi, je n'ai pas leur niveau et je ne peux pas aider. » Donc, c'est là où je me dis « Bon, voilà, langage de femme a un rôle là-dedans. »
L'idée, c'est que si un enfant a un propos qui dérape à la maison, la maman est en capacité de dire « Écoute, moi, j'ai été à Auschwitz, moi, j'ai vu, moi, je sais. »
Absolument.
Tu ne peux pas tenir des propos négationnistes.
Absolument.
Il y a ce chiffre qui est sorti il y a quelques jours, hein, 74% d'actes antisémites en plus pendant l'année 2018. Comment vous réagissez à ce contexte-là ?
Écoutez, moi, je suis atterrée, vraiment très inquiète. Il faut vraiment qu'on se réveille, là. Soit les gens sont endormis ou je ne comprends pas. J'imagine même pas les gens qui ont vécu tout ça et qui revoient tous ces tags et ces graffitis, mais ils doivent se dire « mais c'est pas possible, on a déjà vécu ça, il faut que ça recommence ». C'est pas possible.
Reportage signé Alice Milo, mise en onde Nicolas Benita. Nos émissions sont à réécouter sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique Magazine. Demain, 7 milliards de voisins, on parle éducation comme chaque vendredi. Enseigner la nature dans la nature. Quels sont les bienfaits de l'école à ciel ouvert pour compter, lire, écrire et surtout pour comprendre le monde qui nous entoure. À demain les voisins et les voisines. Merci de votre fidélité.